Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé. Vous êtes à l'écoute de la radio Inzamba Agathe Kakawe. Merci pour votre fidélité. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Un réfugié burundais du camp de Kakuma au Kenya a été tué la nuit de samedi à dimanche par des gens non encore identifiés. Les autres réfugiés soupçonnent les agents chargés de la sécurité du camp eux-mêmes. Entre-temps, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie sont mécontents. Ils demandent à HCR de les approvisionner en savon pour 5 mois de retard. Ils craignent des maladies des mains sales. Enfin, le directeur général de l'Agence nationale de gestion des stocks et de sécurité alimentaire, ANAGESA, Évariste Manirambona, vient d'être démis de ses fonctions pour manquement professionnel. La sanction devrait être suivie d'enquêtes minutieuses pour ce qui est de la gestion de cette entreprise, nous dira Faustin Dikumana, le président de l'ONG locale Parsem. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un réfugié burundais a été tué, un autre grièvement blessé dans la nuit de ce samedi au camp des réfugiés de Kakuma au Kenya. Les parents réclament toujours le corps du leur. Certains réfugiés pointent du doigt les chargés de sécurité dans ce camp pour avoir commis ce meurtre. Écoutez ce témoignage.
Notre frère, un réfugié burundais, a été tué en date du 29 de ce mois d'octobre dans la nuit vers 19h. Il a été assassiné par les chargés de sécurité qui étaient censés nous protéger, nous les réfugiés. Il est accusé d'avoir violé une Soudanaise. Le père de cette Soudanaise est allé appeler les chargés de sécurité d'origine soudanaise. Ils sont venus avant de commettre son meurtre samedi vers 19h. Les autres réfugiés de nationalité burundaise sont vite venus pour demander ce qui s'est passé et la police les a chassés. Depuis ce samedi, un garçon qui a environ 19 ans de cette même famille a été gravement blessé, battu par ces mêmes chargés de sécurité et la femme du chef de ménage est sous les verrous. La famille du défunt ne sait pas à quel sens se vouer. Le corps reste introuvable. Les réfugiés burundais se sont rendus au poste de sécurité d'Asoka de Kakuma pour demander le rapport afin de saisir la justice. Ces Burundais demandent tout plaidoyer, tout soutien pour une justice équitable.
Et puis, suspension du directeur général de l'Agence nationale de gestion de stock et de sécurité alimentaire, Évariste Manirambona. C'est une mesure prise le 27 de ce mois. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions l'accuse de manquement professionnel. C'est suite aux pertes enregistrées dans les stocks de cette agence. En effet, des milliers de tonnes de maïs ont été abîmées. De l'avis d'un ingénieur agronome, il y a des conditions qui doivent être remplies dans la conservation des vivres. On écoute Didas Sinzinghayo, ingénieur agronome.
La conservation des denrées dépend essentiellement de trois aspects. Et le premier aspect, c'est l'état de ces produits avant la conservation. Le deuxième aspect, c'est le lieu de stockage. Et troisièmement, la technique même de stockage, avant le stockage. Ici, on s'intéresse essentiellement sur le taux d'humidité, qui est pour notre cas d'espèce inférieur à 13%. Donc pour le maïs, il doit être inférieur à 13%. Et le riz est aussi inférieur à 13%. Pour les haricots, inférieur à 15%. Pour les arachides, ça devient inférieur à 7%. Le deuxième aspect, c'est le lieu de stockage. Le lieu de stockage doit être un endroit bien aménagé avec des palettes, avec des étagères pour séparer ces produits, séparer du mur ou bien séparer du sol, donc éviter le contact avec le sol ou avec les murs. Le lieu de stockage aussi doit être bien aéré, avec une température et une humidité relativement adaptée, donc acceptable pour la conservation. Parce que ces deux aspects, donc la température et l'humidité, ça influence directement le développement des insectes et le développement des micro-organismes. Les ennemis des denrées stockées comme les charançons, quand la température est relativement élevée, et ils trouvent un bon milieu pour se développer. De même pour les micro-organismes, quand l'humidité augmente, les moisissures, les levures, les bactéries se développent. Le dernier aspect, l'aspect lié aux techniques de conservation, traiter les produits avec des produits chimiques qui sont disponibles dans des structures adaptées. On peut aussi utiliser des sacs PIC qui offrent un milieu anaérobie, donc il n'y a pas de l'air, il n'y a pas d'oxygène, et donc les insectes comme les charançons, les mites ne peuvent pas se développer dans un milieu comme ça. Donc on peut conserver dans ces conditions nos produits 2-3 ans sans toutefois s'inquiéter.
Lidas Sinzinghayo fait aussi remarquer qu'il faut des moyens financiers pour préparer une bonne conservation et un bon entretien des stocks de vivres.
Tous ces aspects que je viens de développer, c'est directement lié aux moyens financiers. S'il n'y a pas de moyens pour la manutention, s'il n'y a pas de moyens pour le paiement du personnel technique qui doit contrôler le taux d'humidité, qui doit appliquer les produits, le personnel pour l'entretien des hangars de stockage, s'il n'y a pas assez de moyens, vous comprenez que directement notre conservation ne va pas avoir lieu dans de bonnes conditions. Donc pour le cas du maïs de Gitega, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux, c'était vraiment lamentable. C'est visiblement qu'il n'y a pas eu de moyens pour l'entretien, pour le suivi de ces produits. C'était entassé dans une salle, je dirais même dans une salle comme ça, par terre.
Limoges, le directeur général de la NAGRESAS, ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des enquêtes minutieuses pour dégager la responsabilité des uns et des autres dans cette structure d'achat des récoltes de la population. C'est du moins ce que pense Faustin Dikoumana, le président de l'ONG locale, en Parsem. Il demande à l'État de repenser sa politique de promotion du développement du pays. Suivez plutôt Faustin Dikoumana.
Ce qui vient d'arriver à la NAGRESAS, c'est un corrobore ce que Parsem avait dénoncé comme risque pouvant arriver. Parce que la création de cette agence pour Parsem était intempestive vu l'organisation de plusieurs secteurs agricoles. Parce que quand l'État intervient dans une filière avec coût de conservation, tout ça, on dénonçait qu'il y avait risque même de mauvaise gestion de la récolte, ce qui vient d'arriver. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une enquête minutieuse. Oui, le limogeage du premier responsable est certes une bonne mesure, mais il faut une enquête minutieuse pour établir les responsabilités des uns et des autres. Parce que dans ces affaires publiques, il y a des élites d'influence. Peut-être qu'il y aurait d'autres éléments en dehors de la NAGRESAS qui pourraient avoir mis les bâtons dans la roue pour entraver son travail. Il faut une enquête pour établir les responsabilités et punir ceux qui se seraient rendus coupables de cette mauvaise gestion. Et encore une fois, personne me demande à ce qu'il y ait une réflexion profonde sur ce que doit être le rôle de l'État dans l'économie. Parce que si l'État continue à multiplier des superstructures d'intervention dans le circuit économique, des fois ça ouvre l'occasion à certains hauts cadres de s'accaparer certains richesses à partir de ces superstructures, ou bien même de pratiquer la corruption, ou bien la négligence, parce que des fois pour certains cadres, quand ils sont corrompus, le patrimoine de l'État est négligé dans sa gestion.
Inzamba. Parlons éducation à présent. Près de 100 bancs pupitres destinés aux écoles en cours de construction dans les différentes communes du pays ont été disponibilisés. D'autres activités comme la restauration de plus de 600 000 écoliers dans les établissements ont été initiées. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, François Vialimana, qui présentait ce lundi le bilan de son ministère au cours du premier trimestre de l'année budgétaire. Ces activités ont été initiées pour permettre aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions, a-t-il précisé.
S'agissant de l'amélioration des conditions d'apprentissage et d'accès à l'école, pas mal d'actions en rapport avec la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures scolaires et académiques ont été réalisées. 61 nouvelles salles de classe construites et équipées et 365 salles de classe réhabilitées et équipées ont été remises aux écoles avant la rentrée scolaire 2022-2023. 93 764 bancs pupitres au total sont en cours de fabrication dans toutes les communes pour subvenir aux besoins en bancs pupitres. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à certains attributaires de ce marché qui n'ont pas encore livré ces bancs pupitres de le faire au plus vite, et cela conformément au contrat qu'ils ont eux-mêmes signé. À ce sujet, les directeurs communaux, en collaboration avec l'administration communale, sont appelés à suivre ce dossier pour que ces bancs pupitres soient disponibles dans toutes les communes de notre pays. Dans le même objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage, 650 000 écoliers sont nourris dans 849 écoles à travers le programme national d'alimentation scolaire.
Dans l'actualité de ce lundi également, chaque habitant doit apporter sa contribution pour protéger les routes et surtout les trottoirs en mairie de Bujumbura. C'est un appel lancé lors d'un point de presse organisé aujourd'hui par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLCOM. Le président de cette organisation, Gabriel Roustili, dit que le premier travail revient à l'État qui devrait ainsi créer des parkings payants pour éviter les mauvais stationnements qui se remarque tout le long des trottoirs de la ville de Bujumbura. On l'écoute.
Vous savez que les trottoirs, les accotements, surtout les trottoirs, vous voyez que ça a été pavé avec des briques spéciales et sans coûter beaucoup d'argent à l'État. Et si je parle de l'État, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. C'est la raison pour laquelle les citoyens aussi sont appelés à protéger ces infrastructures publiques. Mais ici, je voudrais revenir au rôle de l'État. La loi numéro 1/026 du 23 novembre 2012 porte un code de la circulation routière. Ce code, en son article 339, 1.2 stipule que l'arrêt des véhicules sur les accotements et trottoirs est interdit. Mais malheureusement, nous constatons avec regret que vous-même vous pouvez constater, vous allez voir que les piétons même n'ont pas où passer. Raison pour laquelle donc la loi doit être appliquée. Deuxièmement, puisqu'il y a un problème de parking dans les grandes villes, en principe le gouvernement devrait aménager des parkings payants. Nous constatons un autre phénomène quand même qui est regrettable. Et on dirait que le ministère des Travaux publics n'existe plus, surtout les services en charge de l'urbanisme. Regardez les constructions actuellement, surtout en ville. En principe, toutes les personnes qui construisent un bâtiment, ils doivent aménager dans le sous-sol ou dans d'autres parties les parkings. Nous voyons que les trottoirs et les accotements en faillite sont devenus des parkings, peut-être faute de ces parkings publics, mais aussi privés. Les privés partout, va partout en Afrique, vous allez voir qu'il y a des parkings payants. Mais chez nous, pourquoi il n'y en a pas? Mais aussi, pourquoi les services en charge des constructions ne font pas des inspections pour voir si les bâtiments qui sont en train de se construire respectent des normes?
Ils dénoncent 5 mois de retard dans la distribution du savon. Ils, ce sont les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en République unie de Tanzanie, qui reçoivent depuis ce lundi 2 savons par individu et par mois. Ils estiment que cela ne suffit pas pour assurer leur hygiène. C'est au moment où ils obtenaient avant 4 savons par mois et par individu. Ces réfugiés demandent au HCR de leur donner les 24 savons qu'ils devraient avoir. Plus de détails avec Pierre Garungu.
Ce qui cause la colère de ces réfugiés, c'est qu'on leur donne seulement 2 savons, alors qu'ils en recevaient 4 il y a quelques mois. En plus, ils s'attendaient à ce qu'ils soient régularisés des arriérés de 5 mois, ce qui leur permettrait d'avoir 24 savons chacun, mais en vain. Écoutez les lamentations de ce réfugié.
Deux savons par individu, c'est peu. Eux aussi le savent, bien que 2 savons ne peuvent pas leur suffire. Nous venons de passer 5 mois sans que l'on nous donne du savon. Ils devraient normalement nous régulariser parce que ces savons nous appartiennent. On ne sait même pas si le mois prochain nous en bénéficierons.
Ils demandent au HCR de leur donner du savon en quantité suffisante afin qu'ils appliquent les mesures d'hygiène pour l'intérêt de leur santé. Encore une fois, suivez-le.
Nous demandons qu'on augmente la quantité de savon, qu'on le fasse comme avant pour que l'hygiène soit une affaire pour tout le monde.
Mais alors, les informations qui nous sont parvenues après indiquent que la distribution n'a pas eu lieu à cause du manque de connexion. La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a tenté de joindre par téléphone Siasama Njenje, le représentant du camp de Nyarugusu, pour qu'il s'exprime à ce propos, mais sans succès.
En mot de sport, pour boucler ce journal, au basketball, le club Lunani prouve sa suprématie à Dar es Salaam en Tanzanie, où il a pulvérisé les équipes venant de l'Ouganda et de la Zambie, 3 matchs, 3 victoires. Et chez les filles, Young Sisters a remporté la coupe mise en jeu dans le cadre du Legacy Tournament à Kigali au Rwanda. Au football, l'équipe nationale des moins de 20 ans a largement dominé celle du Djibouti dans un match qui s'est déroulé ce dimanche au Soudan. Les détails avec Alexandre Nyongeko.
3 matchs, 3 victoires en 3 journées successives, ce sont les réalisations des poulains d'Aaron Kagabo. Le coach du Lunani Basketball Club, cette formation se qualifie ainsi pour la suite des compétitions qui auront lieu en Afrique du Sud en vue de chercher une qualification à la finale des compétitions continentales. Lunani du Burundi a battu successivement Ami Basketball de la Tanzanie sur un score de 70 à 45 points, nous sommes le 28 octobre, et le lendemain contre City Oil de l'Ouganda, où Lunani a inscrit 64 points contre 58, et ce dimanche, où Lunani a littéralement dominé Matero Magic de la Zambie sur un score de 70 à 53 points. Et c'est son lundi que les Blues sont rentrés donc vainqueurs et leaders de l'Eurozone. Côté féminin, Young Sisters a remporté la coupe mise en jeu dans le cadre du Legacy Tournament, un match qui l'opposait à IPRC à Kigali au Rwanda. Faire honneur au Burundi, c'est aussi au football, au Soudan. Les Burundais de moins de 20 ans ont battu largement le Djibouti par un score fleuve de 5 buts à 0 dans le cadre de la CECAFA au football justement, où le championnat Primus League est suspendu au Burundi suite aux travaux de rénovation du stade Intwari. Au handball, pour la catégorie de moins de 18 ans, le Burundi a aussi décroché la première place au cours d'un tournoi de la zone est-africaine qui vient de se tenir au Kenya. Au volleyball, c'est Lukinzo de la police nationale qui a remporté hier la 3e édition du tournoi des héros. La police a eu raison sur l'armée. Lukinzo a étrié Muzinga par 3-7 à 0 et a eu droit à une coupe et une enveloppe de 500 000 francs burundais. Côté féminin, Jenda Light Club a battu Muzinga par 3-7 à 1, remportant ainsi une coupe et une enveloppe de 500 000 francs bou également.
Voilà, c'est par cette page sportive que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.